à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio G, 101.5 FM, il est 19h et vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe Angers-Maine-et-Loire Europe Direct va vous faire découvrir l'Office communautaire des variétés végétales avec Alessio de Laurentis et Laetitia Denéchaud. Bonjour.
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 Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ?
Alors, moi, je m'appelle Laetitia Denéchaud, je suis française, originaire du nord de la France. J'habite maintenant à Angers depuis 15 ans environ avec ma famille et je travaille à l'OCVV depuis 14 ans, au sein de l'unité technique. Et j'apprécie vraiment notre cadre de vie ici à Angers et je me sens vraiment désormais pleinement angevine.
Et moi, c'est Alessio. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai un petit accent italien. Je travaille à l'OCVV depuis un an et quelques mois et je commençais en tant que journaliste en Italie. Puis je travaillais à Bruxelles, au Parlement européen, à la Commission européenne et dans l'agence européenne qui gère les programmes Erasmus, toujours dans des rôles de communication. Avant qu'on continue, félicitations à Angers car ici c'est vraiment un plaisir faire du gravel car vous avez plein de parcours très intéressants.
Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter, dans les grandes lignes, l'Office communautaire des variétés végétales qu'on va appeler OCVV pour faire plus court ?
Oui, donc l'OCVV, c'est l'une des 45 agences européennes décentralisées, c'est-à-dire qu'elle dépend de la Commission européenne mais n'est pas basée à Bruxelles. Elle a été créée en 1995 et est installée à Angers depuis maintenant 1997. L'OCVV est en charge du système européen de protection des variétés végétales. C'est-à-dire que l'Office délivre des titres de propriété intellectuelle, qu'on appelle aussi certificat d'obtention végétale, pour des nouvelles variétés végétales donc, qui ont été sélectionnées selon différents critères. Et ce qui est important, c'est que ce titre de protection va être valable sur l'ensemble du territoire, donc dans les 27 États membres, et va permettre d'éviter la contrefaçon ou la commercialisation non autorisée de la variété sur l'ensemble du territoire.
Alors, vous en avez un petit peu parlé en introduction, mais quelles sont vos missions au sein de l'OCVV ?
Alors, pour ce qui me concerne, donc, je travaille dans l'unité technique, qu'on appelle aussi l'unité d'expertise des variétés végétales. Et j'étudie plus particulièrement les demandes de protection qui concernent les variétés ornementales. Donc, à partir du dépôt, à partir du moment où on reçoit cette demande, jusqu'à la délivrance du titre. Et je suis également impliquée dans plusieurs projets informatiques qui ont pour objectif de digitaliser nos procédures afin d'améliorer le service rendu à nos clients et essayer de leur rendre la vie plus facile.
Et moi, par contre, je suis le responsable de la communication, soit interne qu'externe. J'ai rédigé des rapports, j'ai préparé des communiqués de presse, je monte des vidéos, je fais des podcasts, des graphismes, j'ai aussi les volets relations avec les institutions, les parties qui sont en rapport avec l'OCVV, bon, je n'ai pas une journée typique et on peut dire que je ne m'ennuie pas vraiment.
Combien de personnes travaillent à l'OCVV et combien de nationalités y a-t-il donc, dans votre agence ?
On est à 51 collègues qui travaillent à l'OCVV et on regroupe 14 nationalités différentes avec nos 4 stagiaires aussi.
Est-ce que Laetitia, vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours avant d'arriver à l'OCVV ?
Alors moi, j'ai fait des études d'ingénieur agronome à Paris, avec une spécialisation en biologie végétale. Puis ensuite, j'ai travaillé 5 ans dans l'Office d'examen français qui est en charge de l'étude des variétés, qui est le GEVES, et qui est basé ici dans la région à Beaucouzé. Et j'ai ensuite rejoint l'OCVV en 2010.
Alors, est-ce que c'est un prérequis d'être citoyen européen pour travailler à l'OCVV ?
Oui. Il faut être européen pour travailler dans une agence européenne.
Pour les auditeurs, justement, qui souhaiteraient travailler à l'OCVV, quels sont les critères pour intégrer l'agence ?
Donc, en effet, il faut être de nationalité européenne, être à l'aise en anglais et dans au moins une autre langue européenne. Et puis, je dirais qu'il faut aussi avoir ce goût, un peu cette curiosité de travailler dans un environnement multiculturel, avec aussi certaines capacités d'adaptation, parfois, bien sûr. Et quand on profile de formation, tout dépend des postes recherchés, des compétences. On a une grande diversité de compétences au sein de l'Office. On a une unité juridique où plusieurs de nos collègues sont avocats ou juristes, une unité informatique avec des développeurs, des programmateurs, une unité technique avec des compétences scientifiques en horticulture, en recherche. Et puis, on a aussi d'autres services supports comme des collègues en comptabilité, en communication, en gestion des ressources humaines, comme dans une entreprise typique. Toutes nos offres d'emploi sont publiées sur notre site internet et sur notre page LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à regarder régulièrement. Dès qu'un poste est publié, toutes les informations seront disponibles sur la page et le site internet.
Combien de langues parlez-vous et quelle est votre langue de travail au quotidien ?
Je parle anglais, j'essaie mon mieux avec un français et italien. Je fais semblant de comprendre l'espagnol car il y a pas mal de collègues espagnols à l'office et j'avoue, j'ai perdu 200 heures de ma vie à essayer d'apprendre le flamand. Ça n'a pas marché. Mais j'ai vécu 13 ans à Bruxelles, donc c'était un peu. Je me devais d'essayer. Mais notre langue de travail à l'office est l'anglais. Dès que nous sommes en réunion et pour tous nos échanges écrits, pour nos rapports, pour toutes nos activités, l'anglais est la langue qu'on utilise. Mais en tant qu'agence européenne, nous acceptons toutes les langues européennes et donc toutes les personnes qui souhaitent enregistrer leur variété peuvent nous contacter dans leur langue. Car grâce aux 14 nationalités que nous avons à l'interne et à des ressources internes, nous sommes à mesure de pouvoir répondre dans la langue maternelle de n'importe quelle personne vivant en Europe.
Alors, pour comprendre un petit peu mieux votre fonctionnement, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment un créateur de variétés végétales doit procéder pour protéger une nouvelle variété ?
Oui, bien sûr. Donc, lorsqu'un obtenteur a créé une nouvelle variété de rose, de tomate ou de maïs, par exemple, qui lui semble intéressante pour le consommateur, il peut demander à protéger sa variété afin qu'on reconnaisse le travail qu'il a effectué. Donc pour ça, il adresse une demande à l'OCVV en remplissant un dossier en ligne dans lequel un certain nombre de renseignements administratifs mais aussi techniques sur sa variété lui seront demandés. Puis, on lui demandera de livrer des plants ou des semences dans l'un des offices d'examen européens avec lesquels nous travaillons et qui vont réellement observer les plantes, observer la nouvelle variété, la décrire, afin de s'assurer qu'elle est bien différente de toutes les variétés qui existent déjà et qu'elle est homogène. Lorsque cet examen technique est terminé et qu'il se passe bien, un titre de protection est délivré et, comme je l'ai dit, ce titre sera valable sur le territoire des 27 États membres. Et désormais, il sera nécessaire de demander l'autorisation du détenteur du titre pour produire et commercialiser cette variété protégée. Le détenteur du titre pourra récolter des royalties pour récupérer une partie de l'investissement qu'il a mis dans la recherche et dans la création de cette variété. C'est donc un cercle vertueux qui permet vraiment d'inciter la création variétale et continuer le progrès génétique.
Et donc, en moyenne, combien de temps prend cette procédure ? On a l'impression que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire à la dernière minute.
En effet, et combien de temps se prend la procédure ? Ça dépend. Pour un rose, par exemple, la procédure peut prendre un an. Mais si vous proposez une nouvelle variété d'abricots, de cerisiers, il faut attendre qu'ils poussent et il faut attendre qu'on puisse étudier les fruits. Donc, ça peut arriver jusqu'à 4 ans. Au fil des années, il y a des taxes qui sont à payer car ces taxes servent à subventionner l'étude qui est faite. Car en effet, l'OCVV est une agence européenne qui n'a pas des fonds européens. En parler, mais l'OCVV est autofinancé dès par les obtenteurs végétales.
Est-ce que la plupart des demandes que vous recevez aboutissent ou pas forcément, et pour quelles raisons ?
Alors, il n'est pas évident de donner une proportion vraiment très précise, parce que certains dossiers sont abandonnés en cours de route. Mais toutefois, c'est quand même important de souligner que la grande majorité des demandes aboutissent à un titre de protection parce que les variétés auront été jugées distinctes, différentes de celles qui existent, homogènes et stables. Dans quelques cas, il arrive que certaines variétés soient trop proches d'une autre variété déjà protégée et dans ce cas-là, elle ne sera pas refusée. Ou alors qu'une variété ne soit pas homogène ou qu'il y ait eu un mélange lors de la livraison des plantes. Le titre est alors refusé, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment une mineure partie des demandes que nous recevons.
Est-ce qu'une variété est protégée à vie ou c'est sur une durée limitée et pourquoi ?
Alors, comme tout système de propriété intellectuelle, c'est à durée limitée. Donc, le titre de protection pour les variétés végétales est valable 25 ans maximum ou 30 ans selon les espèces. Donc, c'est 30 ans pour les espèces d'arbres, les pommes de terre, les bulbes, les espèces qui mettent plus longtemps à être sélectionnées, à être créées. Toutefois, il faut noter aussi qu'il est possible d'arrêter la protection à tout moment de la vie de la variété. Quand l'obtenteur estime qu'il n'y a plus d'intérêt à maintenir cette variété protégée, il peut arrêter le titre de protection et la variété devient publique.
Et plus précisément, quels sont les secteurs qui déposent le plus de variétés et quelles variétés sont les plus souvent déposées?
Donc traditionnellement, depuis le début de la création de l'OCVV, c'est vraiment le secteur ornemental dans lequel on recevait le plus de demandes. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte activité de sélection, de création, et il y a aussi de nombreuses variétés qui sont en multiplication végétative, donc facilement l'objet de contrefaçons. Donc on a reçu beaucoup, une grande partie, presque la moitié des demandes de l'OCVV venaient du domaine ornemental. Depuis quelques années maintenant, il y a une légère évolution et il y a aussi une très forte proportion pour des variétés agricoles. Pour répondre à votre question sur les espèces pour lesquelles nous avons reçu le plus de demandes depuis le début de l'office, en fait, l'espèce principale, c'est le maïs, puis la rose et la laitue pour le secteur potager.
Et en termes de pays, quels sont les pays les plus prolifiques en termes de dépôt de variétés?
Les Hollandais. Les Hollandais produisent énormément de variétés. Et ça se tient car ils sont très forts dans les secteurs ornementaux. Ils sont suivis de près par les Français et l'Allemagne. Et puis il y a l'Espagne au niveau européen. Hors Europe, les États-Unis et la Suisse.
Alors, question peut-être un petit peu bête, mais est-ce que les demandeurs qui font appel à vous sont majoritairement des entreprises ou ça peut être aussi des particuliers?
Ça peut être aussi des particuliers. Ça pourrait être moi, vous, Laetitia. Mais souvent, c'est des entreprises, car il faut connaître un peu son métier et il faut du temps pour développer une nouvelle variété. Il y a aussi des organisations de recherche, des universités, des think tanks qui soumettent des nouvelles variétés, car c'est en partie dans leur corps de métier développer de nouvelles variétés végétales.
Par rapport au traitement des demandes, est-ce qu'il y a des périodes de forte activité ou c'est plutôt à flux constant?
Donc on reçoit des demandes tout au long de l'année, avec des pics selon certaines périodes en effet, puisqu'on a des dates qui jalonnent la procédure. Et notamment, en fin d'année, on reçoit beaucoup de dossiers pour pouvoir les étudier et que les variétés puissent être cultivées et observées à partir du printemps suivant. Donc au moment du printemps, c'est le moment de la soumission de la livraison des plantes. Donc là, on a aussi un pic d'activité en ce qui nous concerne, puisqu'il peut y avoir un certain nombre de soucis ou de questions qui se posent pendant ce moment-là, du matériel qui est perdu, qui ne correspond pas à ce qu'on a demandé exactement. Donc on règle au fur et à mesure ces questions. Et puis après, à la fin de l'année, on étudie là, les rapports. Une fois que la variété a été cultivée, décrite, on reçoit le rapport de l'office d'examen et on regarde que tout a été observé en accord avec le protocole établi.
Mais avant la création de l'OCVV, comment ça se passait en fait pour la protection des variétés végétales en Europe ?
Bien, avant la création de l'OCVV, un demandeur qui voulait protéger sa variété en Europe devait faire 27 démarches individuelles dans chacun des pays. C'était donc beaucoup plus long, comme vous pouvez l'imaginer, plus compliqué, puis surtout beaucoup plus coûteux. Donc ce système a permis vraiment de gagner en efficacité pour l'ensemble des entreprises européennes et internationales, puisqu'il est possible pour les entreprises hors Union européenne de faire des dépôts et des demandes de protection auprès de l'OCVV. Il faut quand même rappeler que les systèmes de protection nationaux existent toujours et qu'il est possible, quand on a une variété pour laquelle le marché sera plutôt national, de faire une demande dans un pays individuel. Chaque pays a gardé son propre système de protection nationale en plus du système de protection européen administré par l'OCVV.
Et actuellement, donc, quel est votre lien avec l'Union européenne? Quelle est votre institution de référence et à qui vous rendez des comptes par exemple?
Nous avons des liens étroits avec la Commission européenne, évidemment, et il faut savoir que la Commission européenne est composée des directions générales. Chaque direction générale est responsable pour un ou plusieurs domaines d'action, d'activité, de policy, d'implémentation d'une décision ou d'une mesure que l'Europe veut entreprendre. Notre direction générale, celle avec qui nous avons des rapports plus étroits, est la direction générale santé. Elle est responsable pour la politique européenne sur la sécurité alimentaire et la santé. Nous avons des réunions avec eux régulièrement, soit pour le suivi des missions, mais aussi pour réfléchir aux évolutions de la législation qui nous concerne. En règle générale, le travail de l'OCVV est régi par les conseils d'administration qui voient représenter chaque État membre et un représentant de la Commission européenne.
Quelle est, selon vous, une idée reçue sur la protection végétale qui est assez présente chez les citoyens?
Oui, merci pour cette question, parce que je pense que c'est important notamment de rappeler et d'expliquer qu'en effet, très souvent, il y a une idée reçue qui circule, qui dit un peu que le matériel végétal protégé ne serait plus accessible. On entend parfois dans les discussions, ça verrouille le vivant. Et bien, en fait, avec le système de protection des variétés végétales européens, c'est faux. Parce qu'il faut savoir que ce système, dans ce système, il existe un principe qui est très important, qu'on appelle l'exception du sélectionneur. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que chaque variété qui est protégée, pour laquelle il y a eu un titre de protection, elle peut être utilisée dans les programmes de sélection sous réserve que la variété obtenue à la fin de ce nouveau programme soit bien différente de la variété protégée de départ. Mais donc, il faut bien avoir en tête que les variétés protégées restent disponibles et accessibles aux autres sélectionneurs. Le matériel génétique contenu dans cette variété n'est pas du tout verrouillé, n'est pas interdit d'accès, sous réserve, bien sûr, qu'après, on obtienne une variété qui soit bien distincte de celle de départ. Donc, je pense que c'est vraiment important d'insister sur cette exception du sélectionneur qui est une pierre, un socle dans ce système européen de protection des variétés végétales.
Alors, petite question plutôt pour Alessio. Quelles sont les différences majeures que vous avez remarquées en venant travailler en France ? Est-ce que vous avez été dépaysé en arrivant en France pour le travail ?
Alors, la différence majeure, c'est qu'en arrivant en France, en conduisant ma voiture, finalement, les panneaux routiers étaient dans une seule langue. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a plusieurs langues nationales, disons comme ça, mais il y a toujours au moins deux langues. Donc, vous devez toujours traduire tandis que vous êtes en train de conduire. Et là, franchement, conduire en France, c'est beaucoup plus calme, paisible, et vous conduisez mieux que les Belges moyens. Mais ne vous moquez pas des Belges, car ils vous adorent, donc soyez gentils avec les voisins. Et puis, il y a aussi le fait que la France est grande. Je fais le calcul, toute la Belgique qui est dans l'île de France. Vos offres de produits, la diversité de vos paysages, franchement, la beauté de la France, sont de bonnes raisons pour la visiter autant que possible. Alors, pour ce qui est très dépaysé, il y a votre amour pour les courriers. Je n'ai plus l'habitude de recevoir des courriers de la part de l'administration française, ni d'aucune administration. Bon, c'est vraiment déconcertant parfois. Je reçois des courriers qui ont à leur intérieur des enveloppes qui sont déjà prévues pour le fait que je renvoie notre enveloppe et ça nourrit un trafic d'enveloppes juste pas possible. Ou pour les chèques. Alors les chèques. J'ai fait mon Erasmus à Paris. Et je faisais des petits boulots pour me maintenir. Et j'étais payé un chèque, même pour des sommes, somme toute, modestes. Là, je vois que de moins en moins, les chèques sont acceptés. Et c'est juste une particularité que la Belgique ou l'Italie n'ont plus. Mais voilà.
Il n'y a pas de chèque alors en Italie et en Belgique.
Si, il y en a, mais si vous trimballez avec un chèque, c'est qu'il est dans les 5000 euros ou plus. Là, à Paris, j'étais payé, soyons clairs, soyons honnêtes, je vide le sac. À Paris, j'étais babysitter et j'étais payé 12 euros, 18 euros un chèque. C'était un peu dur autant, j'avoue.
Je comprends. Donc, vous travaillez tous les deux dans une agence décentralisée de l'Union européenne, mais est-ce que vous, à titre personnel, vous vous sentez citoyen et citoyenne européen ?
Franchement, moi, je devrais être payé deux fois, car je suis vraiment une publicité ambulante pour la Commission européenne, l'Europe et les projets européens. Honnêtement, être à Angers, ça compte vraiment très peu, soit pour moi, soit pour l'OCVV. Oui, nous sommes en France, aujourd'hui nous parlons français, mais le travail qu'on achève à l'OCVV bénéficie tous les Européens, tous les 400 millions d'Européens. Avant d'enregistrer cette émission, j'étais en train de préparer un post sur LinkedIn et pour vous donner une idée, le fait d'avoir un système tel que celui que l'OCVV protège permet d'avoir des terrains arables au niveau européen qui font la taille de l'Irlande, permet d'augmenter la productivité de la production agricole à un point tel que si le système n'existait pas, l'Europe serait un importateur net, alors qu'on est des exportateurs. Sur les plans économiques, il y a des études, il y a des chiffres comme toujours, c'est assez étonnant car on ne songe vraiment pas au fait qu'il y a des innovations dans les variétés et ça a des conséquences directes sur la filière, sur la qualité du travail qui peut être achevé, sur la qualité des salaires qui sont payés par la filière. Donc, je n'aime pas retour de moi. C'est la même chose quand je travaillais à l'EACA, l'Agence exécutive européenne pour la culture, l'éducation et l'audiovisuel. Bon, chaque fois que j'étais quelque part, j'essayais de convaincre quelqu'un à faire l'Erasmus, car c'était juste, c'est bien, c'est l'Europe. Je suppose que c'est le projet phare de l'Europe, l'Erasmus, mais ça a bien marché, car j'ai lu des études, il y a au moins 1 million de bébés qui sont nés, entre guillemets, grâce à l'Erasmus.
Pour ma part, en effet, travailler au quotidien avec les collègues, les clients et nos partenaires européens fait que chaque jour, pour nous, l'Europe est concrète.
Est-ce que, selon vous, il y a des manières particulières de travailler dans les agences européennes ? Si oui, lesquelles ?
Donc, il faut faire la part des choses. Il y a deux types d'agences européennes telles quelles. Il y a des agences exécutives qui sont mises en place car la Commission européenne a des projets concrets qui ont une durée déterminée et qui sont étroitement liées à les directions générales qui sont à Bruxelles. Et donc, ces agences européennes sont à Bruxelles et ils ont une belle taille car ils sont vers les 600-700 personnes. Ils ont soumis à un contrôle assez strict du programme multiannuel. Il y a des passerelles entre les agences exécutives et la Commission, à savoir, il y a des stages d'observation entre les deux et des collègues peuvent bouger d'un côté à l'autre. Les agences décentralisées, par contre, telles que le CVV, et Laetitia vient de le dire, il y en a plus ou moins 40 dispersées un peu dans toute l'Europe, ont des tailles très différentes. Nous sommes une cinquantaine, on n'est pas les plus petits, il y a des collègues qui sont à 15, mais il y a aussi des agences qui ont 2000 collègues. Donc, il y a une différence de taille, des financements, nous sommes autofinancés, d'autres agences décentralisées sont financées par les budgets européens, et cela implique évidemment que d'un côté, il y a des budgets européens. Les points communs, je dirais que c'est l'anglais, d'abord, et l'expertise. Les agences décentralisées ont des missions très ponctuelles, très précises, et donc mes collègues à l'OCVV sont les experts européens dans la matière. Si je fais la comparaison à Bruxelles, dans les directions générales, on part des politiques, on est expert à écrire les grandes lignes directrices, on est des experts à décider où l'Europe veut aller. Ici, à Angers, l'OCVV, nous sommes les experts pour nous assurer que les paramètres qui nous ont imposés par l'Europe, car nous avons notre Basic Regulation, soient respectés. Nous travaillons étroitement avec les Européens pour le bien de l'Europe.
Pour les auditeurs qui seraient curieux, est-ce qu'il est possible de visiter l'OCVV ?
Alors, de temps en temps, grâce à notre collaboration avec la Maison de l'Europe, qui est basée à Angers, donc, nous organisons des présentations pour expliquer localement qui nous sommes, ce que nous faisons, comment ça fonctionne, ce système de protection européen. Donc, à ces occasions-là, il est possible de visiter le bâtiment. Mais autrement, comme ce sont vraiment nos bureaux, notre outil de travail, on n'est pas vraiment équipé pour accueillir les visiteurs au quotidien, même si c'est vrai que nous avons la chance d'avoir un joli bâtiment situé dans un lieu classé et protégé.
Et pour finir, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux auditeurs ? Alors, en français pour Laetitia, mais ça peut être dans votre langue natale, Alessio, bien sûr.
Eh bien, moi, j'aurais envie de dire, faites-vous plaisir et puis faites plaisir autour de vous en achetant des fleurs, en jardinant, en faisant votre potager. Vraiment, ça met de la joie dans le quotidien et en plus, ça peut donner un coup de pouce à l'industrie de l'horticulture qui, bon, ces derniers temps, a souffert un peu, entre autres avec la hausse des prix de l'énergie, etc. Donc voilà, mon message serait florissons nos vies.
Je vais rester en français pour respect par les pays qui m'hébergent. Mon message, c'est assez simple en fait. L'Europe, ce n'est pas Bruxelles. Il y a cette idée reçue que l'Europe est quelque chose qui est loin, qui est dans sa tour d'ivoire et nous regarde de loin. Franchement, l'Europe, c'est ici à Angers, c'est à Messine, c'est à Dortmund. L'Europe est très mauvaise à se faire de la pub à elle-même, mais il y a une chouette application que le Parlement européen a développée. Elle vous permet de vous géolocaliser et voir qu'est-ce que l'Europe est en train de faire autour de vous. Et donc, je vous invite à la télécharger, car c'est assez impressionnant quand on regarde, ce pont a été construit grâce à des fonds européens. Et cette application qui s'appelle Citizens App, elle vous permet vraiment d'avoir un regard nouveau sur des choses qui passent inaperçues, car c'est juste un acquis. En fait, non, c'est plutôt l'Europe. Et c'est important de même pas d'y croire, de la vivre. Et d'y participer, comme nous venons de le faire lors des élections qui viennent d'avoir lieu.
Un grand merci Alessio et Laetitia pour avoir répondu à nos questions et nous avoir fait découvrir donc cette agence européenne finalement méconnue. On vous souhaite une très bonne continuation à l'OCVV et à Angers. L'Europe dans le micro, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission est disponible en podcast sur le site de Radio G.